Voyons voir maintenant la période entre deux cycles. En théorie, on passe de l'âge de fer à l'âge d'or en quelques années. L'âge de confluence est supposé durer 100 ans. On en a déjà fait 80. Donc, dans 20 ans, on est dans l'âge d'or. Que vont devenir les éléments radioactifs des bombes atomiques? Qui durent des milliers d'années, ou en tout cas au moins des centaines. Comment est-ce qu'on peut reconstruire une Terre parfaite en quelques années? Comment réparer les destructions du déplacement des continents? Tout cela reste dans le flou. Je ne connais aucun biquet qui ait présenté une description plausible. Aucun ne se risque sur ce terrain très glissant. On nous dit pudiquement que le pouvoir du yoga va tout arranger. Ah, le yoga, c'est ma spécialité. Ça arrange tout. Qu'est-ce qu'on ferait sans yoga? Croire que le simple pouvoir du yoga va faire le travail, c'est croire dans la pensée magique. Même si nous sommes les maîtres de la nature, je n'ai encore jamais vu un seul biquet faire quoi que ce soit défiant les lois naturelles. Alors, imaginez pour toute une planète en détresse. Jamais aucun détail n'est donné sur cette période dramatique. Ce serait pourtant intéressant de savoir comment les véhicules laissés sur la Lune et Mars vont revenir spontanément sur Terre. Ou comment chaque atome va reprendre exactement sa place initiale, sans aucune erreur. Peut-être que nous faisons partie d'un grand jeu cosmique, une Matrix, et qu'à la fin du jeu, dans un ordinateur fantastique, un enfant, dans une autre dimension, pousse sur le bouton « Reset » et qu'on recommence tout à zéro. Peut-être, qui sait? On nous le répète, c'est juste un jeu. J'ai quelques questions bêtes. Est-ce que Krishna brille à cause de la radioactivité? Et encore, où est-ce que Krishna habite avant qu'une déité serviteur, constructeur, lui crée son palais en or? Est-ce qu'il le crée lui-même par la pensée, à partir de son berceau? Si dans l'âge d'or, on est en pure conscience d'âme, pourquoi avoir des hommes déités et des femmes déités? Pour simplement se regarder dans les yeux? Il me semble que le vieux sanskar pourrait ressurgir. Avec tous les pouvoirs sur la matière, quoi ne pas avoir des déités éprouvettes, des clones? La naissance serait plus facile. C'est sûr, c'est un peu moins poétique. Si les déités sont fécondées par un drishti, logiquement, biologiquement, on devrait avoir, comme chez les abeilles, seulement des déités femmes. Si les familles de déités ont seulement deux enfants, comment est-ce qu'il peut y avoir logiquement un accroissement de la population? C'est mathématiquement impossible. Il était dit dans un murli que derrière notre palais, nos serviteurs iraient creuser pour extraire l'or. Les chanceux. Une vie biquée à faire du service et la suivante à creuser la question. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de créer l'or par la pensée? Si on est capable de transformer toute la terre, on est capable de faire un peu d'or. On peut aussi se demander, est-ce qu'une déité mineure dansant dans le bonheur peut avoir bonne mine? Une autre question que j'ai posée récemment à Jayanti. Il y a d'autres. Qui dit aux âmes que c'est leur tour de descendre sur Terre dans le cycle? Jayanti m'a répondu que les âmes sentaient la vibration de la Terre et donc elles savaient automatiquement que c'était leur tour. Je me suis permis de lui faire remarquer que le monde des âmes est par définition au-delà de toute influence, en particulier de cette minuscule planète qu'on appelle la Terre. Elle était d'accord. Il y a eu ensuite un silence. De minuscules puces électroniques appelées des implants ont été inventées il y a déjà plusieurs années. Les dernières sont faites avec de la nanotechnologie et sont d'une taille incroyablement petite. Paraît-il qu'on peut les mettre maintenant dans les vaccins. Des milliards d'unités ont été produites, prêtes pour chaque terrien. Implantées dans le cerveau, elles peuvent contrôler les pensées et les émotions. Il n'y a plus d'effort à faire. Elles peuvent aussi contrôler les comportements et les actions. Et sur demande, en cas de problème, provoquer des crises cardiaques. Ah oui, en plus, elles sont toutes reliées à un super ordinateur. Big Brother is watching you. On peut se poser la question. Est-ce que les déités oublient le passé et sont toujours très positives parce qu'elles ont un petit implant magique? Peut-être. En tout cas, c'est un des grands projets des Illuminati pour contrôler les futurs rescapés des catastrophes. Mais toutes ces questions bêtes, c'est juste pour faire avancer le Schmilblick. Le secret des visions. Il est souvent mentionné dans les Murlis que Dieu garde le secret des visions. Beaucoup de personnes sont devenues biquées après avoir eu des images, des intuitions, des expériences spéciales. Elles les ont attribuées à Dieu. Qui d'autre pourrait faire ça? D'autres esprits? Des personnes? Des extraterrestres? Voyons, vous plaisantez. Quand on fait un peu de recherche sur le sujet, on s'aperçoit que, effectivement, les esprits en général, les visiteurs de l'espace et les nouvelles technologies peuvent nous influencer profondément. Ils n'ont pas besoin d'être Dieu. Ils peuvent influencer notre pensée, nos émotions, ils peuvent faire apparaître des images dans notre tête, et ils peuvent même faire apparaître des scènes en 3D, en couleur, en hologramme, dans l'espace, avec son incorporé, visible par des foules entières. On n'arrête pas la technologie. Il est aussi très commun dans le monde des esprits de vouloir se faire passer pour un autre ou pour Dieu. Donc c'est vrai, des appareils très sophistiqués ont été développés pour influencer la pensée et les émotions, simplement en dirigeant un rayon d'énergie sur le cerveau. Le but premier est de s'en servir comme arme et pour contrôler les foules. Ces recherches ont commencé dans les années 50. On peut penser qu'elles sont maintenant très avancées, très efficaces. Plusieurs chercheurs disent qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'il est actuellement possible de faire avec la technologie. C'est comme dans les films de science-fiction. De plus, il semble que les visiteurs de l'espace et différents esprits bons ou mauvais peuvent changer de dimension, apparaître dans notre réalité et disparaître de nouveau. En d'autres termes, devenir visible ou invisible. Physique ou non physique. Est-ce que Dieu aurait une technologie secrète dont il ne veut pas nous parler? Peut-être, je ne sais pas, c'est un secret. Tout ça pour dire qu'avoir des expériences spirituelles ne veut pas dire qu'elles viennent directement de Dieu. Elles peuvent très bien venir de différents esprits. Les biquets enseignent une bonne méthode de méditation. Elle permet d'avoir une vraie connexion avec la lumière. Est-ce que cela veut dire que le reste est vrai? Pas vraiment. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être biqué pour avoir des expériences? Pas vraiment non plus. Les extraterrestres. Des milliers, des dizaines de milliers de témoignages, de films, de preuves existent sur les soucoupes volantes et sur des rencontres avec des visiteurs de l'espace. Il semble que l'armée américaine coopère avec certains d'entre eux qui sont présents dans leur base souterraine. Ces visiteurs de l'espace sont encore plus encombrants que les dinosaures. En effet, il suffit d'un seul E.T. et c'est la fin du cycle des Mickey. Et probablement aussi la fin de plusieurs religions. Or, c'est prouvé, les extraterrestres existent. Donc, bye bye le cycle. Le cycle est un conte pour enfants. Dans la Viet Murli du 31 janvier 2016, on nous disait « Dieu vous donne la connaissance sous la forme d'une histoire. » Cela veut-il dire que l'histoire du cycle est un conte de fées pour nous donner certaines connaissances? Jusqu'à quel point ce conte est-il proche de la vérité? Comme nous venons de le voir, il est facile de démontrer que le cycle est une histoire pour les enfants. Nous, les adultes, on aime aussi les histoires. On pourrait nous aussi imaginer un semblable conte pour enfants, un peu comme un conte de Noël, où on leur promettrait des cadeaux fabuleux, uniques, magiques. Tout serait pétillant, empli d'amour, de lumière, d'étoiles. Ce serait le bonheur parfait avec le Père Noël et leurs jouets favoris. Mais il y aurait juste une petite condition, un petit détail. Pour pouvoir obtenir leurs jouets et leurs cadeaux, il faudrait que tous leurs proches, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs chiens, leurs chats, leurs grands-mères meurent. Et eux aussi d'ailleurs. On trouverait ça épouvantable, bizarre, irrationnel, morbide. Et pourtant, schématiquement, le cycle, cela revient à ça. 7 milliards 400 millions de morts pour recevoir nos cadeaux demain. Waouh! Un vrai cadeau empoisonné. Pourquoi? Dans une classe de 42, maman disait que Dieu Brahma joue de la flûte pour détruire ce monde vicieux et établir l'âge d'or. On peut se poser quelques questions. Est-ce que la bonne volonté de millions de personnes auxquelles on fait croire que la destruction est bonne est une façon de canaliser leur énergie vers cette même destruction? De la provoquer. Est-ce le but ultime? Est-ce que quelqu'un voudrait utiliser la bonne volonté, la vie, les biens, les spécialités de personnes gentilles, bienveillantes, naïves, crédules, spirituelles et dédiées comme instrument pour répandre cette idée de destruction inévitable et souhaitable? Est-ce que quelqu'un pourrait vouloir ainsi créer l'énergie mentale globale pour la provoquer? En fait, oui, c'est dit ouvertement dans les Murli. Ce serait un plan diabolique, machiavélique. Utiliser l'énergie spirituelle d'âmes extraordinaires pour détruire l'humanité. Pirater, détourner la bonne volonté vers la souffrance et la mort. Chapeau, c'est bien vu. C'est une technique de base du Aïkido. On ne résiste pas à l'adversaire, mais on va dans la même direction pour finalement utiliser son énergie pour le maîtriser. Maya commence par appâter les âmes, les plus spirituelles, pour canaliser leur énergie vers la destruction et la mort. Cela me fait penser à la participation de scientifiques de bonne volonté à des opérations Black Ops secrètes. Ces scientifiques ne se rendent pas compte de leur participation à une organisation criminelle qui utilise leurs connaissances à ses fins. On leur fournit un laboratoire, des fonds et un bon salaire. Ils se concentrent sur leur passion, la recherche. Puis un jour, ils se réveillent et réalisent qu'ils ont participé à l'élaboration d'une arme épeurante, épouvantable. Quand ils ne sont pas supprimés et qu'ils ont le courage de parler en public, on peut voir que ce sont d'excellentes personnes, emplies de regrets. Peut-être qu'ils auraient pu utiliser une toute petite partie de leur intelligence pour questionner le but de leur recherche. C'est ce que j'avais proposé au professeur de chimie organique à l'Université de Rouen, quand je faisais des études de sciences. J'avais proposé que les étudiants réfléchissent à la finalité de leurs études. C'est curieux, mais il n'a pas aimé mon idée. Il m'a même promis publiquement qu'il s'assurerait personnellement que je quitte l'université. Mais c'était juste une blague. Tout le monde sait que l'industrie chimique et les compagnies pharmaceutiques, qui d'ailleurs font partie du réseau des Illuminati, ne créent que des produits bénéfiques pour l'humanité. Des pesticides, des OGM, des chemtrails, des herbicides, des vaccins contaminés, de nouveaux virus, etc. Je me demande quelquefois si la notion de cycle n'est pas une création des Illuminati. Sommes-nous des instruments pour cette organisation? Et le jour de la destruction, en tant que biquet, est-ce que vous vous sentirez un peu responsable? Est-ce que vous regarderez vos proches agoniser, très détachés, contents de leur avoir donné la libération? Que la paix, l'amour et le bonheur soient toujours avec vous.